Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Héloïse Durler, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Sotiroff, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux sociologues, vous avez, avec d'autres, on va en parler, sorti un livre tout récent, un livre spécialisé, mais grand public tout de même, c'est pour ça que j'ai souhaité en parler. Il s'intitule « L'exclusion ordinaire du handicap » aux éditions Épistémé, c'est un livre scientifique. Vous êtes tous les deux chercheurs et enseignants à la HEP Vaud, c'est d'ailleurs dans les jardins insoupçonnés de la HEP que nous nous rencontrons. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là ? On est alors la HEP, pour ceux qui connaissent à Lausanne, c'est une vue absolument spectaculaire sur le lac et puis beaucoup de souffrance, j'imagine, dans les bâtiments pour ceux qui y étudient et qui y travaillent peut-être, mais c'est aussi une espèce de petit jardin communautaire, Héloïse Durler ?
Oui, tout à fait. Un jardin accessible à tous et toutes, aux gens du quartier surtout.
C'est pas exclusif HEP donc.
Ouais, c'est pas exclusif HEP. Il est, les collaborateurs et collaboratrices de la, quelques collaborateurs et collaboratrices de la HEP s'en occupent. D'ailleurs, Alexandre fait partie de cette équipe d'entretien du jardin. Mais il est ouvert aux gens du quartier et les gens peuvent venir y planter ce qu'ils veulent et y récolter ce qu'ils veulent aussi.
Vous êtes tous les deux sociologues, je l'ai dit. Science de l'éducation, c'est un peu vague la sociologie. Hein, pour le commun des mortels, ça fait partie de ces domaines qui... c'est l'étude des sociétés, donc ça touche tout, hein, évidemment. Comment ça se passe ? On fait de la sociologie, puis après on se spécialise, Alexandre Sotiroff ?
Non, pour mon cas, on fait plutôt des sciences de l'éducation et ensuite on se spécialise en sociologie.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on applique le prisme de la sociologie, en fait, à des... faits éducatifs, à des programmes éducatifs, à des politiques éducatives, mais la discipline vertébrante sur les questions éducatives, c'est la sociologie.
Vous avez choisi ce thème du handicap. J'aimerais qu'on comprenne d'abord pourquoi. L'exclusion, le handicap, l'inclusion, l'exclusion sont des mots qui s'entendent bien, qu'on voit souvent ensemble. C'est très centré sur l'école, évidemment, hein, sur les programmes scolaires dits inclusifs. On va parler de la méthode tout à l'heure, mais d'abord, pourquoi ce livre de spécialistes sur l'inclusion ou, en l'occurrence, l'exclusion ?
Alors, beaucoup de choses à dire pour vous répondre. D'abord, la question de l'inclusion scolaire, c'est une question qui est,
qui est dans la politique, qui est dans les discussions des gens concernés, qui est dans les discussions de tous les parents qui se demandent.
Voilà, exactement. Et en fait, ce qui s'est passé avec cet ouvrage et avec l'ouvrage précédent qu'on a réalisé avec quasiment la même équipe, on a eu envie, non pas de faire un ouvrage pour l'inclusion ou contre l'inclusion, pas du tout, mais était de réfléchir à ce que font les politiques inclusives aux gens, aux acteurs. Alors ici, on est sur la situation d'une mère, mais dans d'autres travaux, on s'intéresse aux élèves, on s'intéresse aux enseignants. En fait, qu'est-ce que ces injonctions, qu'est-ce que cette impulsion fait réellement au quotidien des acteurs et des actrices ?
Alors, la méthodologie, hein, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de spécialistes qui vont donner leur avis sur ce que vous appelez un cas pratique, un cas d'école. Alors, c'est pas de la statistique, c'est pas l'inclusion, ça touche tant de personnes, ça satisfait tant de personnes, ça ne satisfait pas tant de personnes. C'est vraiment un cas unique. On parle d'un petit enfant qui s'appelle Léo, qui a 4 ans, qui a un handicap génétique. Racontez-nous en quelques mots son histoire, Alexandre.
Alors, l'histoire de Léo, c'est un enfant, effectivement...
On parle d'un cas réel, donc. Hein.
Pardon ?
On parle d'un cas réel.
D'un cas réel, voilà, tout à fait. Donc l'histoire de Léo, c'est l'histoire d'un enfant qui a 4 ans au moment où l'entretien se déroule, en fait, où on raconte ses premiers pas d'entrée à l'école et puis ensuite les années qui vont suivre dans l'institution scolaire et puis qui va peu à peu au fil des années en fait passer dans cette institution qui au début est bénéficiaire du droit à l'inclusion et qui peu à peu va être repoussé vers les marges d'abord de sa classe et ensuite les marges de l'institution du scolaire système. Ordinaire elle-même.
Donc la fin, hein, je vais faire, voilà, je vais spoiler, la fin c'est enseignement spécialisé, quoi.
Exactement.
Donc vous racontez l'histoire d'un échec, celui de l'inclusion scolaire. Vous l'avez esquissé, Héloïse, pas de position morale, hein. C'est pas l'inclusion, ça marche pas, on est pour, on est contre. C'est disséquer finalement une expérience personnelle, celle de ce petit enfant, mais surtout celle de sa mère qui accompagne et qui documente, hein, finalement ce parcours du combattant. Comment vous avez procédé avec elle ?
Alors en fait, je ne sais plus si vous l'avez dit, mais en fait la spécificité de cette mère, c'est qu'elle est, en fait c'est une collègue sociologue, donc elle a quelque part mis en œuvre un peu ses réflexes de métier, et dans cette situation elle s'est mise à observer ce qui se passait pour elle, pour son enfant, elle s'est mise à observer les relations, les interactions qu'elle avait avec les différents professionnels, donc c'est ça qu'elle nous a raconté en fait, elle s'est mise à prendre des notes aussi, des réunions, enfin de tout ce qu'elle pouvait. Et donc, elle nous a raconté tout ça vraiment dans le détail. Donc, on a eu accès finalement aux mécanismes, un peu à l'invisible, hein, à des choses auxquelles on n'accède pas. Quand on bosse sur des statistiques ou même quand on vit, en fait, on n'a pas accès tellement à ces réalités-là. Donc, on a vraiment une plongée finalement dans le détail, dans la finesse de ces situations sur plusieurs années, et on a accès à ces mécanismes un petit peu, un petit peu invisibles, et c'est ça qui nous a intéressé. On a eu aussi accès finalement à ces émotions. Parce qu'il y a beaucoup de colère dans cet entretien, dans ce témoignage. Et finalement, la question était aussi, qu'est-ce qu'on fait de cette colère ? Est-ce qu'on peut ensuite considérer que cette situation est source de connaissances pour mieux comprendre l'école et ce qui s'y joue ?
Il y a beaucoup de colère, vous le dites. On ne voit pas beaucoup de positif, hein, dans le récit. Il y a peut-être eu des petites victoires. Si elles sont là, on ne les voit pas, en fait. Hein.
C'est la situation d'entretien qui a fait que ce qui nous a été donné à voir, enfin, ce que cette maman nous a donné à voir ou à entendre, en fait, a été forcément façonné par les questions que nous lui avons posées lors de l'entretien.
Parce qu'on parlait de méthodologie, donc vous avez cette maman qui a un biais, un biais professionnel, hein, donc qui a documenté son expérience. Vous mettez une tripotée de sociologues autour d'elle, et puis alors c'est la batterie de questions, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, on a fait exactement le même exercice qu'on est en train de réaliser actuellement. C'est-à-dire qu'on avait préparé un peu rapidement une série de questions, de thématiques qu'on souhaitait aborder avec elle. Et ensuite, on s'est réunis effectivement autour d'une table pour en discuter. Et puis ensuite, il y a eu un travail de, cette fois, de passage de l'audio à l'écrit par qu'on appelle une transcription d'entretien, quoi.
Voilà, avec gommage des noms, évidemment. Exactement. Anonymisation des personnes.
Absolument.
Il n'y a pas, ça m'a échappé, de géolocalisation du cas. Vous ne dites pas si c'est un cas suisse, si c'est un cas vaudois, si c'est... Héloïse.
Alors oui, c'est fait exprès, hein. En fait, c'est tout à fait volontaire. On a voulu éviter qu'on puisse reconnaître le lieu, les acteurs, les personnes concernées, parce qu'effectivement, ce sont des choses assez, assez dures parfois qui sont exprimées. Donc évidemment, on ne pouvait pas
faire
en sorte...
Pour la clarté, ça se passe en Suisse.
C'est impossible de le dire.
Ah bon ? Parce que j'imagine que les lois sont différentes d'un pays à l'autre. Si ça se passe en France voisine, le droit à l'inclusivité n'est peut-être pas exactement le même qu'ici. C'est quelque chose... On ne va pas disséquer les différentes lois, mais c'est quelque chose qui peut être applicable finalement à notre horizon géographique raisonnable d'Europe occidentale.
C'est en tout cas un pays dans lequel les droits d'accès à l'inclusion sont similaires à celui de la Suisse.
Ouais. Et ils le sont. Ils le sont en général en Europe, ou est-ce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés ou au contraire beaucoup plus en retard ?
Il y a des pratiques.
Plus pratiquement, où se situe la Suisse ? On est dans un
médian européen. Ouais, on est dans un médian européen assez proche de la France, c'est-à-dire où il y a ce système ordinaire et ce système spécialisé qui évolue en parallèle. L'inclusion radicale voudrait qu'on ferme ces établissements spécialisés pour faire plus que de l'ordinaire qui soit adapté à toutes et à tous les élèves. Mais ça, bien entendu, c'est encore, il y a des résistances, autant économiques, idéologiques, politiques, sociales.
Et voilà.
Oui, et puis il y a des variations entre les cantons. Donc quand on parle de la Suisse, franchement, ouais, entre le canton de Vaud, le canton de Genève, le canton du Valais, on parle déjà de réalités assez différentes. Et puis, rien qu'en quelques années, on voit déjà des évolutions. Si on parle du canton de Vaud, parce que c'est un peu le canton dans lequel on travaille, on voit que déjà depuis quelques années, il y a quand même un basculement.
Ça tient aux élections.
Ça tient, bien sûr.
On va schématiser, il y a une politique de gauche, une politique de droite à cet égard.
Voilà.
D'ailleurs, et c'est bien aussi pour ça que je suis là avec vous. Ça, on va pas dire que ça a coûté son poste à l'ancienne conseillère d'État, mais enfin c'était en tout cas prégnant et très très clairement important dans ce qu'on lui reprochait ou ce qu'on lui attribuait comme mérite, quoi. C'est cela, Amarelle et son projet d'inclusion à l'école. On arrive gentiment à la fin de la première partie. Est-ce que vous dessinez une impossibilité en fait dans ce livre? Et on va y revenir tout à l'heure. Est-ce que c'est possible, l'inclusion à l'école?
Alors, c'est toujours difficile de demander à des sociologues de prédire l'avenir ou de se lancer comme ça dans des projections. Donc je vais vous répondre par une pirouette, certainement. En tant que sociologue, je vous dirais, je ne sais pas. En tant que citoyenne, je vous dirais, mais oui, voilà, c'est tout ce que je dirais. Je dirais que ce qu'on essaye de faire avec ce travail, c'est de dessiller un peu le regard, d'aller au-delà du slogan ou de l'injonction, de dire il faut l'inclusion, mais de dire, de faire un état des lieux, d'essayer de voir où se situent les problèmes, où se situent les zones où ça coince, les zones aveugles, aussi, les choses qu'on ne voit pas, pour pouvoir justement commencer à réfléchir sérieusement à ce qui pourrait rendre éventuellement, si on le souhaite politiquement, ce qui pourrait rendre cette inclusion possible, peut-être un jour.
Alexandre Sotiroff, la loi dit que oui. Hein, la loi, c'est chaque enfant a le droit à un enseignement digne, etc.
La loi dit que oui, mais entre le droit et puis l'application de ce droit, il y a toujours un écart qui est à la discrétion des acteurs et des actrices de terrain, et puis qui, effectivement, c'était l'un des objectifs de cet ouvrage qui montre bien que comme l'une des autrices le mentionne, en fait, que c'est un droit faible, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, en fait, où le droit entre la partie écrite qui est inscrite dans certains textes internationaux, certains textes nationaux, même certains textes cantonaux, entre ses intentions légales et puis la mise en pratique de celle-ci, il y a, voilà, encore une fois, un écart dont il faut chercher, en fait, à regarder de quoi il est fait. Quels sont les intérêts en fait qui comblent cet écart plutôt que de forcément voir des mauvaises intentions de la part des acteurs et des actrices.
Alors on va continuer d'en parler dans la deuxième partie de cette émission. On démarrera sur la loi.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission, toujours avec Alexandre Sotiroff et Héloïse Durler, deux des auteurs, autrices de ce livre « L'exclusion ordinaire du handicap, un cas d'école ». On l'a bien compris, hein, un cas particulier qui permet de révéler finalement cette espèce de fossé, hein, entre la volonté d'une école inclusive et la réalité qui est parfois difficile. Moi, j'y voyais souvent, d'ailleurs, ce cas d'école en est une démonstration implacable. La loi qui va plus vite que la musique. Hein. On a souvent ça dans le processus législatif. On a une loi tout à coup très progressiste. Je parle du droit des animaux, par exemple, hein, puisque je suis venu avec mon petit chien là. Et puis, à l'appliquer, c'est beaucoup plus difficile. On est typiquement là-dedans avec l'inclusion scolaire. La loi va plus vite que la musique.
Je ne sais pas si la loi va plus vite que la musique. La loi va à la vitesse. À la vitesse de son champ, quoi. Elle va à la vitesse du système légal et puis des différentes parties concernées.
Elle est un reflet de la société, la loi. Hein. C'est la politique qui décide, c'est le législateur qui va choper les courants sociétaux.
Alors, ce sera un autre débat, ce sera un peu long de rentrer là-dedans, mais je ne sais pas si la loi est forcément le reflet de la société, de quelle société est-elle le reflet, pour qui parle-t-elle, qui défend-elle, ça c'est une autre question. Mais par contre, effectivement, ce qui se passe, c'est que, bien évidemment, il y a toujours. Le champ de la loi, le champ légal est évidemment à dissocier du champ la réalité du quotidien des institutions, en l'occurrence celui de l'école, et puis celui dans lequel en fait se démènent à la fois les parents et puis les professionnels. Donc c'est deux systèmes qui évoluent en parallèle, mais pas forcément à la même vitesse, et puis qui font face en fait à des résistances qui sont pas du même ordre, et puis qui ce serait un peu réducteur à mon sens de dire que la loi avance plus vite que la société ou que les institutions auxquelles elle s'applique. Mais
Héloïse,
je sais pas, pour essayer de faire un parallèle, la loi sur tous les plans dit que les hommes et les femmes sont égaux, hein. Regardons ce qui se passe dans nos réalités sociales, dans les rapports entre hommes et femmes. On n'y est pas partout, tout à fait. Donc, la loi, c'est une chose. Après, les contraintes sociales, les rapports de force, les rapports de domination.
Mais les rapports économiques aussi. Parce
les rapports économiques, tout à fait.
Alors, le parallèle est très juste. Mais enfin, théoriquement, la loi d'égalité entre les hommes et les femmes, elle peut s'appliquer d'un claquement de doigts si tout le monde y met du sien, quoi.
Oui.
Procéder à une inclusion absolue d'enfants en situation de handicap, quel que soit leur handicap, dans l'école telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, c'est pas un claquement de doigts.
C'est pas un claquement de doigts, mais si on revient aux hommes et aux femmes, c'est pas un claquement de doigts non plus. Hein, je veux dire, qui fait à manger, qui fait le ménage,
volontés. Là, on fait une loi finalement qui impose au système scolaire. Est-ce que les profs y sont préparés? Est-ce que les classes y sont adaptées? Est-ce qu'il y a assez de personnel spécialisé pour accompagner l'enseignant, etc. Tout ça, on a l'impression que la loi dit oui, ça doit être possible, et puis que la pratique dit peut-être, mais donnez-nous des sous, quoi, donnez-nous de la pépette.
Les sous, ils sont là.
Pour c'est une inclusion
Pour une inclusion, je sais pas. En tout cas, la question, l'excuse du manque de moyens, c'est effectivement généralement ce qui est avancé par bon nombre de professionnels du terrain. Une hypothèse qu'on peut faire, c'est que probablement, en fait, les moyens, ils sont mis à la perpétuation, en fait, d'un système scolaire qui essaye à la fois d'être inclusif tout en essayant de préserver ce qui fait une partie de son identité ou de son ADN. Si on prend
la compétition, la performance,
la compétition, la sélection, en fait. Et c'est pour ça que je rejoins Héloïse, en fait, c'est que le claquement de doigts, en fait, il fait face à des résistances qui sont structurelles, systémiques.
Alors, je reviens un petit peu au cas pratique qui est le vôtre. On voit que les résistances, parce que là, on pointe un petit peu le système. Alors oui, les profs sont, j'imagine bien, moi, un prof en début d'année, de voir, oula, j'ai un enfant particulier, ça va compliquer mon job de façon importante pendant toute l'année scolaire. Il y a aussi les parents des autres enfants qui sont inquiétés que le niveau baisse, etc. Donc tout finalement se coagule sur les parents de l'enfant en situation de handicap, qui soit doit dire merci d'accepter mon enfant, soit doit culpabiliser parce qu'on accepte son enfant. C'est cette réalité très brutale que vous décrivez.
Oui, vous l'avez dit, c'est une réalité très brutale où quelque part, ce qui ressort un petit peu de ce cas aussi, et vous le dites très très bien, c'est finalement c'est la perpétuation de ces logiques très très... on fait de cette expérience, avoir un enfant en situation de handicap, une expérience individuelle. Voilà, on reste en fait sur cette vieille conception du handicap, c'est la malchance, voilà, bon, ça vous arrive, c'est comme ça. Et en tant que parent, vous devez gérer la chose et gérer la chose un peu tout seul.
On vous a dit que ça serait dur, on va vous le prouver.
Voilà, c'est ça. Alors on vous tape sur l'épaule, etc. Mais au fond, ce qu'attendent apparemment ses parents, c'est quand même un renversement et quelque part du collectif. L'école inclusive, ce serait ça. Ce serait quelque part cette prise en charge collective du handicap. Or là, on retombe, ou en tout cas le cas le montre, sur des logiques très très individuelles, mais qui s'appliquent à tous les parents, à tous les enfants au fond. Ouais. L'école est encore dans cette optique, vous l'avez dit, méritocratique, compétitive. Ce sont ces logiques-là qui prédominent. Donc il y a un énorme paradoxe de vouloir construire une école inclusive dans ce contexte-là,
il y a quelque chose de flagrant dans la conclusion du livre. Hein, je ne sais plus qui la rédige. Vous allez, peu importe, il y a plein de co-auteurs.
Ouais.
Mais Il appelle ça les faux semblants, hein, en disant bah, finalement, on est dans un système où les parents vont essayer de minorer le handicap de leur enfant, de peindre la situation de la façon la plus positive possible pour éviter qu'on refuse leur gamin. On a de l'autre côté un système scolaire qui va dire oui, l'inclusion c'est trop super, tout en sachant qu'ils ont du mal à l'appliquer, mais ils ne peuvent pas parce que c'est la loi, etc. On est dans une espèce de menterie, quoi. Hein.
Alors, pour reprendre la question du faux-semblant, effectivement, c'est un espèce de jeu de dupe dont personne n'est vraiment dupe. Peut-être les plus dupes sont les parents qui sont les moins familiers de l'institution scolaire, qui seraient soumis à ce type de situation qu'on décrit dans l'ouvrage. Mais la maman dont il est question ici n'est pas si dupe que ça. En tout cas, elle n'en donne pas forcément l'impression, elle est très familière du milieu scolaire, elle sait aussi à quel point elle va devoir probablement combler les insuffisances de l'institution pour que son enfant soit accepté. La question par exemple de l'habillement lors du premier jour de l'école est extrêmement flagrante, en tout cas extrêmement révélatrice de ce qui se joue au moment où elle va présenter son enfant à l'école lors de son premier jour de classe. Il faut qu'il présente bien, et cette présentation de soi, en fait, elle est là parce qu'elle sait en fait qu'elle part pas avec son enfant ne part pas avec
elle toutes pas
les
cartes, quoi,
elle part pas égalité, et que bon. Oui, d'une certaine manière, elle vient compenser en fait quand même une espèce de une inégalité de départ, mais c'est une inégalité qui va perdurer, qui va prendre d'autres formes, mais la logique reste évidemment la même.
Ouais, ça se traduit par des situations extrêmement concrètes. Hein. La présentation de l'enfant, enfin du cas de l'enfant, devient une sorte d'entretien d'embauche. Et toutes sortes de vexations, de moments difficiles. Quand je dis vexation, c'est pas forcément volontaire, hein, mais voilà, le système fait que c'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'on n'a pas affaire à une promesse intenable finalement, qui est dur pour les parents d'enfants en situation de handicap? La loi leur dit tout va bien se passer, et puis la réalité, pas.
Oui, en tout cas, il y a de la désillusion, hein, ça c'est clair. Il y a un espoir, il y a quelque chose de très enthousiaste, je crois, au départ de cette aventure. Et puis on voit progressivement, au fur et à mesure du temps, quelque part... que tout ça s'écroule et que, comme l'a dit Alexandre, c'est un jeu de dupes. Chacun cache des informations, se méfie. Enfin, ça devient très tendu au fur et à mesure du temps. Et puis, il y a un rapport de force qui commence à s'établir. Enfin, tout le monde est mis sous tension. Hein. Bon, là, la mère, très clairement, mais on peut estimer que les professionnels...
Il y a des moments où on sent bien que l'enfant n'est pas heureux. Hein.
Et puis, l'enfant va pas très bien. Donc, oui, on se demande à quoi ça rime, tout ça, au bout d'un moment. Oui.
Bon, tout cela se termine dans le livre par une sorte de porte de sortie qui peut presque être un soulagement, hein, après le parcours du combattant, qui est l'entrée en enseignement spécialisé. Ouais,
je crois, et je me mettrais peut-être ici à la place de cette maman qu'on a interviewée, mais c'est un soulagement lucide. Enfin, c'est-à-dire que c'est un soulagement qui se fait par...
Un soulagement triste, quoi. Voilà,
ouais. Un soulagement triste, peut-être aussi, ouais. Mais lucide dans le sens où elle a éprouvé, enfin ils ont éprouvé, pour reprendre avec son conjoint en fait les limites de ce que l'école ordinaire peut faire pour leur enfant, et puis pour eux également. Et il est lucide à ce titre-là. Il est triste parce qu'en fait, justement, comme l'évoquait Héloïse, en fait, il s'appuie sur une désillusion à l'égard de l'école, quoi, de l'école ordinaire.
Je parlerai peut-être de résignation, peut-être, ouais, plus que de soulagement. Je pense que là, voilà, les parents sont rendus à l'évidence, il n'y a pas trop le choix, et puis on va accepter la situation. Je crois que c'est plus cette...
Je rappelle le titre du livre, L'exclusion ordinaire du handicap, un cas d'école, sous la direction de vous deux, hein, Héloïse Durler, Alexandre Sotiroff, mais aussi Laurent Beauvais et Valérie Angelucci, avec plein d'autres auteurs, autrices, hein, qui participent à ce cas d'école. Il nous reste un tout petit peu peu de temps, j'aimerais qu'on sorte un petit peu de votre champ et qu'on parle de la recherche, de la société actuelle. Je me demandais, mais à quoi il va servir ce livre ? Est-ce qu'il y a des politiques qui vont le lire ? Est-ce qu'il va faire bouger les lignes ? On est dans un moment où la recherche, c'est soit vous avez raison, mais on n'a pas les moyens d'appliquer, ou au pire, aux États-Unis, fake news, tout ça, c'est de la gnognotte. Comment vous vivez votre travail de chercheur, Alexandre, à cet égard ?
C'est une question extrêmement compliquée et puis qui...
Je la lance avec 2 minutes devant moi. Hein,
c'est vrai.
Soyez gentil.
Ok. On va essayer d'être bref. Je pense que, on s'accroche. En tout cas, moi, j'essaie de m'accrocher à une vision de la recherche qui soit au plus proche de ce qui se passe sur le terrain et puis qui est une adéquation scientifique, en tout cas, avec le monde empirique. Ça passe par ce type de recherche au plus proche des personnes qui vivent les situations réelles dans la société.
Héloïse.
On est aussi formateur, formatrice à l'HEP, donc on forme les futurs enseignants, donc on a l'ambition de faire lire cet ouvrage aux futurs enseignants, ce qu'on a déjà un petit peu commencé à faire, et on voit des réactions, on voit que ça fait réfléchir, on voit que tout à coup il y a des petites choses qui bougent, donc à mon niveau j'estime que c'est déjà une petite victoire, mais on est humble.
On va rester sur cette victoire-là. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.